respect de leur comportement et bien appuyer pour une monde qui change.
Comprendre ce qui va se passer dans le cadre du changement climatique.
Fais de moi une observatrice du genre humain.
Je vais maintenant avoir les cratères à la surface des astéroïdes.
Je travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Bonjour à tous, ici Fanny, en direct de l'IMBE. Je suis allée à la rencontre de Véronique Mazzucchi, qui est maître de conférences et qui va nous parler de son rôle d'observatrice.
Bonjour Véronique.
Bonjour Fanny.
Alors Véronique, en quoi votre métier fait-il de vous une observatrice ?
J'ai regardé la définition dans le dictionnaire pour être sûre. L'observation, c'est une expérience de sélection et de recueil d'informations sur un phénomène ou un objet d'étude pour dégager des hypothèses ou vérifier celles découlant d'observations antérieures. Et c'est exactement ce que je fais. Tous mes plans d'expérience, toutes mes données sont issues de l'observation, qu'il s'agisse de choisir des individus tests ou alors de positionner des placettes expérimentales. Attention, en écologie, l'observation n'est pas forcément simple. S'il est facile de regarder une plante, il est indispensable d'en regarder plusieurs pour pouvoir choisir un individu représentatif, par exemple. De même, observer l'état de stress d'une plante va nécessiter parfois un appareillage complexe et de longues manipulations pour accéder à l'information. Ce n'est pas simplement que du regard.
Ensuite, j'aimerais savoir quel est votre projet principal en ce moment.
Le projet qui commence pour moi à la rentrée est assez nouveau. Avec plusieurs collègues, on va tenter de comprendre le lien entre pollinisation et production pour une plante aromatique cultivée dans la région. C'est une approche qui va combiner des observations entomologiques, des observations chimiques, des observations paysagères, et finalement c'est assez original. Voici notre objet d'étude, c'est du fenouil. Alors c'est une plante locale, source d'une molécule nommée anétol. Cette plante est fréquemment utilisée en ethnobotanique pour soigner les maux de ventre par exemple, ou alors pour aromatiser les plats, de poissons notamment, et puis on s'en sert surtout dans diverses boissons anisées, qu'elles soient alcoolisées ou pas, tout autour du bassin méditerranéen au sens large.
Ok, et comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier ? Pourquoi la botanique ? Peut-être un lieu que vous avez visité, une rencontre que vous avez faite quand vous étiez enfant ?
J'ai pas eu un déclencheur. Le métier d'enseignant-chercheur, ça a été une évidence pour moi depuis très jeune. Mes parents travaillaient à l'université, j'avais une idée assez claire du job et de sa diversité. Construire la connaissance, la partager, fabriquer les personnes qui vont construire de la connaissance en même temps que moi, c'est-à-dire les futurs chercheurs. C'est plus qu'un gagne-pain, c'est une philosophie. Après, en ce qui concerne le sujet, les plantes, l'écologie végétale, le domaine des phytométabolites, c'est un domaine qui m'a intéressée depuis l'enfance. Mon père, qui est un naturaliste amateur, chasseur, me faisait sentir les différents teints dans les collines d'Allo, et puis ça générait les innombrables pourquoi. Pourquoi celui-là, il sent comme ça? Pourquoi celui-là, il sent pas pareil alors que les deux plantes se ressemblent? Pourquoi c'est celui-là qui sent et pas un autre? Bon, aujourd'hui, j'ai les réponses à ces questions-là, je suis contente.
Vous avez parlé de phytométabolites? C'est quoi le phytométabolite ?
Phytométabolite, c'est, pour faire très simple, des produits qui sont fabriqués par la plante et que l'on utilise en prenant la plante comme source de matière première, pas la synthèse chimique. Il y a des tas de molécules qui sont fabriquées chimiquement, qu'on peut obtenir soit par voie de synthèse, soit par extraction de la plante. Un phytométabolite, c'est la même molécule, mais elle va être issue de la plante et pas issue de la synthèse chimique.
D'accord. Et vous avez parlé d'odeurs, ils ont tous des odeurs ? Pas forcément.
Non, pas forcément. Le sucre, c'est un phytométabolite, mais il n'a pas spécialement d'odeur. Par contre, il a un goût.
D'accord, ok. Donc c'est des produits issus de la plante, finalement.
Oui, c'est ça.
D'accord. J'aimerais savoir quelle partie de votre métier vous préférez, ce que vous aimez en général.
C'est compliqué de répondre à cette question-là. J'aime pas une tâche en particulier. En fait, j'aime la diversité des tâches qu'on effectue quand on est enseignant-chercheur. J'aime le terrain, ou enfin pas trop en hiver, pas trop au mois de juillet, parce que dans la région, c'est assez éprouvant. J'apprécie de me retrouver en bas d'un amphi et à parler avec les étudiants. J'aime la paillasse, j'aime encadrer les projets d'étudiants. Voilà. Ce serait plus simple de me demander ce que j'aime pas dans le métier, en fait. Et c'est évident, je pense que tout le monde vous fera la même réponse, c'est tout ce qui est formalité administrative.
Parfait. Ensuite, est-ce que vous vous posez une question à laquelle vous n'avez pas encore trouvé de réponse ?
En ce moment, la question qui me préoccupe, c'est plutôt une question d'ordre social. Comment rétablir la confiance en la science ? Ça fait quelques années que le grand public, les médias et même parfois certains scientifiques eux-mêmes se défient et remettent en cause des multiples connaissances scientifiques qui sont pourtant acquises de longue date. Par exemple, les vaccins, les ondes, la préservation de la biodiversité. Et ce rejet Ça se fait au mépris du travail de personnes comme moi. C'est assez frustrant pour le chercheur qui est tourné vers la société civile, c'est assez frustrant pour l'agent du service public, et c'est assez frustrant pour la mère de famille que je suis, et qui cherche à construire un monde meilleur pour ses enfants par son travail.
Effectivement, c'est un réel problème, je pense aussi. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait supprimer le scepticisme environnant ?
La communication. Il faut que les chercheurs communiquent davantage. Il faut qu'on réussisse à se réhumaniser, parce que pour beaucoup de personnes de la société civile, le chercheur est encore enfermé dans sa tour d'ivoire. Quand je dis que je suis chercheur, typiquement, on me dit « Ah, tu cherches, mais tu trouves ? Tu cherches, et tu cherches quoi ?» C'est compliqué de parler simplement de ma recherche. Il y a des démarches qui se font à tous les niveaux. Matins en 180 secondes, par exemple, c'est une manière de vulgariser. J'aime pas ce mot, mais c'est une manière de communiquer de manière très simple. Ça permet de réhumaniser les chercheurs. Il faut aussi qu'on se donne une posture de sachant. Nous, on a tendance à se remettre en cause, les chercheurs. Enfin, c'est l'essence même de notre métier, se questionner. Et je crois que quelquefois, vis-à-vis du grand public, il faut qu'on se positionne de manière un peu plus autoritaire, de manière un peu plus forte, en disant « voilà, là, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Et ça, c'est pas une posture d'autorité, c'est parce qu'il y a un tel, et tout un tas de chercheurs qui ont dit que ça fonctionnait de cette manière-là.
Et pour finir, si vous deviez qualifier votre métier en un mot, lequel utiliseriez-vous ?
Quand je disais qu'il fallait simplifier, je ne m'attendais pas à ce que vous me preniez au mot tout de suite. Alors, un enseignant-chercheur, il va souvent hésiter entre la rigueur et la passion. On fait à peu près tous ce métier par passion, c'est une vocation, on va dire. Ceci étant, la rigueur, je pense que c'est le mot que je choisirais, parce que c'est ce qui va permettre que notre travail soit juste, et soit reproductible, et soit reconnu. Donc rigueur.
Ça va. Ben merci beaucoup Véronique.
Mais de rien.
Et à la prochaine pour un nouveau podcast.
À bientôt j'espère.